bien, alors nous allons immédiatement laisser le propos à monsieur le député Sacha Houlier, dont le temps, si j'ai bien compris, est extrêmement court. On m'a également indiqué qu'à 17h30 précise, il serait bien que nous terminions nos discussions, puisque est prévu, Emmanuel, tu me dis, hein, si je me trompe, mais une visite, ou Loïc, une visite de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je pense que ça peut être tout à fait intéressant pour nous tous. Je vous laisse la parole, monsieur Sacha Houlier. Je remercie également Guillaume Tussaud. Dernière fois qu'on s'est vu, je lui disais tout à l'heure, c'était à Kyoto. Et puis, bien sûr, notre collègue Hideki Itô, mais tu reviendras sur sa présentation tout à l'heure, hein, mon cher Ken. Sacha Houlier, je vous laisse la parole. Merci.
Je vous remercie pour votre invitation dans cette journée qui est assez particulière, d'abord parce qu'il s'agit de l'anniversaire, le 61e anniversaire de la Constitution de la Ve République, mais également parce que vous avez certainement pu constater qu'il y avait des travaux importants qui se déroulaient dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, à savoir l'examen de la loi bioéthique, et que nous commençons également l'examen du budget. C'est la raison pour laquelle, à 17h, le délai de dépôt des amendements sera échu, et il me faut m'en aller un petit peu avant pour contrôler les amendements que j'ai moi-même préparé à ce projet de loi. La partie du colloque sur laquelle vous m'avez demandé d'intervenir correspond à une interrogation sur la révision et les droits fondamentaux. Il faut savoir que pour ce qui concerne les droits fondamentaux, ils n'ont pas eu une part tout le temps égale dans la Constitution de la Ve République. Et en réalité, il a fallu attendre 1971 pour que leur place soit véritablement consacrée, en tout cas institutionnalisée, qui est cette décision célèbre du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, liberté d'association, qui, au-delà du corps de la Constitution, va consacrer des principes, et notamment va faire entrer dans le bloc de constitutionnalité la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, et puis, de façon plus globale, les principes à valeur constitutionnelle. C'est un bloc de constitutionnalité qui va être enrichi au fil du temps, puisque d'autres décisions viendront y ajouter, notamment la Charte de l'environnement, voulue par le président Chirac et dont on a très récemment déploré la mort, mais célébré la mémoire, et son action environnementale, qui a complété, au-delà de la liberté fondamentale, qui était celle propre à la Révolution française, eh bien, des avancées environnementales qui ne sont pas étrangères à la révision que nous conduisons aujourd'hui. Alors, ces libertés fondamentales, elles sont appelées à finalement intervenir, ou du moins à être mobilisées, protégées par le législateur d'abord au terme de la Constitution, mais mobilisées par les citoyens, par différents mécanismes constitutionnels qui sont établis. Un mécanisme constitutionnel qui est dit initial, même s'il a été finalement véritablement consacré, lui, en 1974, et qui permet le contrôle par voie d'action des parlementaires du respect des libertés fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque adoption d'un texte par le Parlement, des députés, généralement de l'opposition, des sénateurs, principalement de l'opposition également, ont la faculté, s'ils se réunissent par groupe de 60 sénateurs ou 60 députés, eh bien de saisir le Conseil constitutionnel pour contester l'inconstitutionnalité d'une disposition législative en tout ou en partie. C'est-à-dire que tout un texte de loi peut être contesté devant le Conseil constitutionnel. Assez récemment, ça a fait l'objet d'une... Enfin, il y a eu une saisine qui a été assez commentée en France, alors qu'il y avait deux particularités. D'abord parce qu'il s'agissait d'une proposition de loi du Parlement et donc d'un projet de loi du gouvernement. C'était la proposition de loi dite anti-casseur, prévoyant une interdiction administrative de manifester, calquée sur l'interdiction administrative de stade qui est applicable dans notre droit national. Et puis, cette proposition de loi, elle a été renvoyée au Conseil constitutionnel pour contrôle de sa constitutionnalité, et notamment par rapport à la liberté de manifestation, non pas par le Parlement, et non pas par le processus que je vous décris de 60 sénateurs ou 60 députés, mais par le président de la République lui-même, qui a cette faculté. De ce point de vue, il y a un contrôle qui s'exerce de façon tout à fait institutionnelle. Et la grande nouveauté, finalement, de 2008, la grande révolution dans la Constitution de la révision du 23 juillet 2008, c'était l'introduction d'un contrôle citoyen. Alors, malgré des filtres, mais un contrôle citoyen qui s'exprimait par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle finalement intervient dans une procédure judiciaire classique, où un citoyen qui se voit appliquer quid d'un arrêté ou une mesure réglementaire de façon générale ou une loi, eh ben, vient en contester devant le juge du fond la constitutionnalité. Et là se déclenche un mécanisme assez finalement long et périlleux juridiquement, mais très, très largement sécurisant pour le justiciable français, puisqu'il permet de saisir l'une des juridictions suprêmes de l'ordre administratif, le Conseil d'État, de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, pour que ces derniers examinent la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et acceptent ou non de le transmettre pour contrôle au Conseil constitutionnel. Et de ce point de vue-là, on a une voie institutionnelle et une voie plus citoyenne. Alors cette voie citoyenne est évidemment très encadrée, puisque les conditions de fond sont au nombre de trois. Il faut que la loi dont on conteste la constitutionnalité soit applicable au litige en cause. Il faut que cette question n'ait jamais été tranchée au préalable. Donc c'est une absence de déclaration préalable de conformité par le Conseil constitutionnel. Et puis il faut que la question soit jugée ou sérieuse ou nouvelle pour être transférée, ces trois conditions étant cumulatives. Et si je vous informe de tout cela, c'est que au-delà de ce qui figure aujourd'hui au bloc de constitutionnalité, donc au-delà de des libertés de 1946 directement inspirées des libertés de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au-delà de la Charte de l'environnement, il y a une volonté pour les législateurs français d'aller plus loin dans ce que comporte aujourd'hui la Constitution. Alors d'aller plus loin sur des choses qui sont aujourd'hui modestes, c'est-à-dire d'ajouter des prérogatives aux législateurs, et c'est-à-dire dans la séparation qui est celle de la Constitution entre les prérogatives qui appartiennent aux législateurs et toutes les autres qui appartiennent au pouvoir réglementaire et donc au gouvernement, d'y ajouter la protection des libertés numériques, des données personnelles, ce qui ajoutera certainement un motif de protection dans le champ du Conseil constitutionnel, mais surtout d'inscrire à l'article 1er une considération tout à fait nouvelle, dont la société s'est saisie, mais dont aujourd'hui le politique peine à répondre, qui est trois éléments ne figurant pas à la Charte de l'environnement et qui sont la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité et la lutte pour le climat. Et si je dis ça, c'est que d'abord ça ne figure pas à la Charte de l'environnement et qu'ensuite il y a une véritable vertu, puisque par ce contrôle, par voie d'action que je vous décrivais, qui est la question prioritaire de constitutionnalité, alors on peut très bien imaginer que n'importe quel arrêté d'exploitation d'une usine en France, que n'importe quel permis de construire, donc des mesures qui sont des mesures réglementaires individuelles, eh bien, puissent être demain contrôlées par le juge administratif ou par le juge judiciaire à l'aune de la constitutionnalité de ces mesures. Et donc un projet qui serait celui de la montagne d'or en Guyane, qui a divisé beaucoup de la société française, puisqu'il consistait à rechercher via des métaux lourds de l'or dans les rivières des territoires guyanais qui sont aujourd'hui des territoires français, eh bien il pourrait être jugé anticonstitutionnel parce que la Constitution décide de protéger des libertés qui ont trait finalement à la protection de l'environnement et qui sont tout à fait nouvelles dans notre bloc de constitutionnalité. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que l'ajout nécessaire et utile d'une mention du service national universel est une liberté nouvelle, mais elle renvoie aussi à l'idée selon laquelle on a des interrogations dans le cadre de la révision constitutionnelle qui est en France, sur le champ des libertés qu'offre la Constitution, sur les nécessités de la réviser pour entrevoir une forme de conscription nouvelle qui prévoit en France que chaque jeune ait un service à rendre à la nation, service qui n'est plus rendu à la nation depuis la décision du président Chirac en 1995.